Bonsoir, 1179 écoles doivent être radiées du fichier des paies des enseignants. Décision publiée hier mardi sur le compte Twitter du ministère de l'EPST et contenue dans une correspondance que le secrétaire général à l'EPST adresse au gouverneur des provinces. Selon la même source, le premier ministre a demandé au ministre des tutelles d'instruire le CECOP afin d'élaguer ces écoles de la liste des paies des enseignants. Motif, elles fonctionnent avec des faux arrêtés, des agents avec des données d'identification irrégulières, ainsi que des doublons. Des informations révélées par l'inspection générale des finances lors de son enquête dans ce ministère. Comment analyser cette décision? Que faire pour prévenir ce genre de situation? C'est le thème de Dialogue en Congolais de ce mercredi 31 mars 2021. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Hilaire Ekobo, assistant principal à la Direction nationale du service de contrôle de la paix des enseignants, CECOP en sigle. Hilaire Ekobo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Gary Sakata, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est député national, élu de Bagata, dans la province du Kwilu. Et Jean-Marie Tantoumé, expert en matière d'éducation. Il est promoteur du Bureau d'action et d'éveil culturel, UNASBEL d'éducation civique et culturelle. Il est également ministre et député honoraire. Jean-Marie Tantoumé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes très nombreux auditeurs des Radio Capi à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Célestin Sota. À mon humble avis, c'est une décision à saluer et j'encourage en même temps non seulement se charger de l'exécution de cette décision, de le faire rapidement, mais aussi poursuivre l'origine de ces faux arrêtés, identifier les auteurs de ces désordres et les mettre à la disposition de la justice. Bruno Jibikilai, membre du Sinecat Tanganyika, c'est une bonne décision d'un côté pour décourager les réseaux des faussaires et la politisation de l'éducation en RDC. De l'autre côté, mauvaise décision car la plupart des écoles radiées sont des écoles primaires. Donc, on crée un nouveau problème en voulant résoudre un autre. À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, vous nous suivez sous la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, exactement 1179 écoles doivent être désactivées du fichier des paies des enseignants. Cette décision est contenue dans une correspondance que le secrétaire général à l'EPST adresse au gouverneur des provinces. Selon la même source, le premier ministre a demandé au ministre des tutelles d'instruire le CECOP afin d'élaguer ces écoles qui fonctionnent avec des faux arrêtés de la liste des paies des enseignants. Dona Madimba nous en dit plus.
Dans une correspondance adressée au gouverneur de province et consultée par Radio Okapi mardi 30 mars, le secrétaire général de l'enseignement primaire secondaire technique EPST, Jean-Marie Mangobé, fait état de la désactivation de la liste de paies de 1179 écoles. Je me fais le devoir de vous informer que les écoles non conventionnées fonctionnant avec de faux arrêtés ainsi que leur personnel dont la liste en annexe sont désactivées du fichier paye des enseignants, écrit le secrétaire général de l'EPST. Selon lui, cette décision intervient après l'enquête effectuée sur terrain par l'inspection générale des finances IGF à la suite des recommandations de celle-ci, explique Jean-Marie Mangobé. Le Premier ministre, par sa lettre du 3 mars 2021, a demandé au ministre de l'enseignement primaire secondaire technique d'instruire le CECOP de procéder à la désactivation des écoles fonctionnant avec de faux arrêtés, leur personnel, des agents avec des données d'identification irrégulières ainsi que des doublons. Le député Gary Sakata de la commission suivi et évaluation à l'Assemblée nationale estime que la décision du secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique va susciter des conséquences désastreuses sur le plan social en RDC. L'élu de Bakata considère que fermer plus de 1000 écoles qui fonctionnent depuis plusieurs années déjà revient simplement à envoyer des milliers d'enseignants au chômage et prive plusieurs dizaines de milliers d'élèves d'un cadre pour leur scolarité.
Hilaire Ekobo, vous êtes assistant principal à la direction nationale du service de contrôle et de la paix des enseignants, CECOP. En sigle, 1179 écoles doivent être radiées du fichier de paix des enseignants. Motif, elles fonctionnent avec des faux arrêtés, des agents avec des données d'identification irrégulières ainsi que deux doublons. Comment en est-on arrivé là?
Merci beaucoup, madame. Il faut d'abord commencer par préciser que ces écoles, juste comme on vous parle, ne sont pas encore désactivées du fichier paye. C'est vrai que nous avons reçu la correspondance qui a été envoyée par monsieur le secrétaire général sur instruction du premier ministre. Et cette instruction est venue des recommandations qui ont été données par la mission d'audit de l'IGF sur le fichier paye des enseignants. Alors, il faut dire que la recommandation qui a été donnée par la mission d'audit, telle que toutes les écoles ou tous les établissements qui fonctionnent sur base des faux arrêtés devraient tout simplement être élagués du fichier paye. Et le chef du gouvernement, le premier ministre sortant, a saisi officiellement le ministre d'État, le ministre chargé de l'EPST, M. Willy Batonga, voire puis au CECOP de désactiver de son fichier paye ces différents établissements mis en cause. Mais bon, écoutez, c'est une décision qui a été prise par les autorités du gouvernement. Le CECOP n'est qu'un simple service administratif qui est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par la hiérarchie. Mais nous disons que cette décision, c'est une très grande décision qui risque d'avoir des conséquences très néfastes sur le terrain. Il faut le dire tout haut, ça risque de produire des conséquences très néfastes parce que, naturellement, on enverrait au chômage un très grand nombre de gens et que plusieurs élèves également resteraient sans école. Et donc, c'est une situation qu'il faut regarder de près et avec beaucoup de vigilance parce que les conséquences sur le terrain seront très néfastes. Mais bon, écoutez, d'où à l'est, c'est de l'est, nous on n'en fait rien. Les autorités ont décidé ainsi. Nous ne sommes que des exécutants. Voilà ce que je peux dire à ce stade.
Hilaire Ekobo, est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ces écoles fictives?
Personnellement, je dirais non parce que toutes ces révélations sont sorties après la mission d'audit de l'IGF. L'IGF, en menant son audit, elle est arrivée à conclure qu'il y a 1179 écoles qui fonctionneraient sur base de faux arrêtés. Enfin, c'est issu du rapport, oui. Mais moi personnellement, je n'étais pas au courant de ça, je l'ai appris et je l'ai lu dans les rapports de l'audit. Mais je veux dire une chose par rapport à ça.
Mais par rapport à l'existence des écoles fictives, ce n'est pas aujourd'hui que l'on parle, Monsieur Hilaire Ekobo. Il y a plusieurs personnes qui ont dénoncé depuis quelque temps l'existence de beaucoup d'écoles fictives en RDC.
Dénoncer l'existence des écoles fictives est une chose, mais le prouver également en est une autre. Je ne dis pas qu'il n'existe pas des écoles fictives. Peut-être qu'il peut y en avoir, des écoles fictives ici et là, mais il faut le prouver également, madame. Il faut le prouver. Au fait, nous, on est conscient de la gravité de la situation. On est conscient de la gravité de la situation et on ne peut pas l'encourager. Mais aujourd'hui, la mission d'audit a dit qu'il y a des écoles fictives. Oui, on ne refuse pas. Mais il va falloir qu'on puisse nous donner les détails par rapport à ça.
Et donc le ministère n'est pas entré en possession du rapport de l'IGF?
Pardon, madame?
Vous n'êtes pas en possession du rapport de l'IGF?
Bon, le rapport de l'IGF a été déposé auprès des autorités. Je n'engage pas les services, je ne suis qu'un simple assistant. Et le rapport a été transmis auprès des autorités, je pense auprès du directeur général et puis auprès du directeur national, j'estime. Mais nous avons lu des extraits de ces rapports, c'est vrai, il y a eu des recommandations qui ont été faites dans ce sens-là, où l'IGF dénonce naturellement l'existence des enseignants jugés fictifs ou des écoles jugées fictives dans le fichier paye. Bon, c'est un rapport de... C'est comme je l'ai dit, dénoncer est une chose et le prouver en est une autre. Pour nous, on estime que...
Si l'IGF est arrivé à dénoncer, ça veut dire qu'il y a des preuves de l'existence de ces écoles fictives.
Exactement. Je ne refuse pas, madame. Je ne refuse pas que l'IGF est arrivé à dénoncer cela. Ça voudrait dire qu'elle a eu des preuves et qu'elle a été sur terrain et elle a remis un certain nombre d'éléments
qui ont fait en sorte qu'elle puisse présenter ces rapports-là. Nous, on ne refuse pas. Mais bon, écoutez, nous, on dit ceci, de notre point de vue, nous avons pensé qu'il va falloir que l'on puisse descendre sur terrain. Il va falloir que l'on puisse descendre sur terrain pour pouvoir regarder ces différents établissements scolaires qui, entre parenthèses, ont été déclarés comme des écoles fictives.
Qui doit descendre sur terrain.
Aujourd'hui, il y a une très grande mission que les CECOP a diligenté sur terrain ensemble avec les syndicalistes de l'EPST. Ils sont en train de faire un travail sur le toilettage du fichier paye. Et nous, on s'est dit, à l'issue de ce travail-là, qui est fait conjointement entre les CECOP et les syndicalistes qui sont les représentants des enseignants, naturellement, s'il existe des écoles fictives, eh bien, lors de la remontée de ces rapports-là, on le saura naturellement qu'il existe des écoles fictives.
Et donc, pour l'instant, vous émettez un peu des doutes sur le rapport de l'IGF.
Non, doute, c'est fort. L'IGF a fait son travail, l'IGF a fait son enquête. Elle est descendue sur le terrain, et elle a fait son enquête et elle a fait sortir son rapport. Nous, on ne refuse pas. Mais nous, nous pensons qu'il serait bon à loi, parce que c'est également les droits de la défense. Ce serait de bon à loi que l'on puisse aller palper du doigt sur terrain situation là. Alors on a pensé que les syndicalistes qui sont le représentant des enseignants sont véritablement les personnes attitrées qui peuvent également faire partie de cette mission pour aller voir de plus près ce que l'IGF a pu démontrer. C'est de bonnes lois, donc je pense que on ne peut pas nous refuser cet exercice-là. Et je vais d'ailleurs le dire, l'IGF a autorisé cette mission-là du toilettage du fichier. Ils ont autorisé que le CPP descende avec les syndicalistes pour aller assainir le fichier paye. Et donc, c'est comme je le dis, lorsque cette mission d'assainissement du fichier paye sera finie et que des rapports par province éducationnelle seront remontés au niveau national, naturellement, on aura des échos pour savoir qu'écoutez, dans telle province éducationnelle, on a eu à obtenir autant d'écoles fictives, on a eu à obtenir autant d'enseignants fictifs, et naturellement, ces enseignants seraient élagués du fichier paye. Et donc, voilà ce que je peux dire à ce stade.
Pendant qu'on attend les rapports du CECOP et de syndicalistes, il y a cette décision quand même d'éradier du fichier de la paie des enseignants, toutes ces écoles fictives, même si vous venez de dire que ces écoles ne sont pas encore radiées. Mais dans la correspondance du ministère de l'EPST adressée au secrétaire général, ce dernier aussi qui a adressé ce message au gouverneur des provinces, qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Est-ce qu'on va attendre le rapport du CECOP des syndicalistes avant de désactiver effectivement les écoles qu'on trouverait fictives?
Oui, merci beaucoup madame. Mais moi je pense que il n'y a pas de raison que l'on puisse faire de la précipitation autour de ce dossier. C'est un dossier très délicat qu'on doit suivre avec beaucoup d'attention. Et nous pensons que la remontée rapport missionnaires qui sont descendus pour faire le travail de toilettage ou de l'assainissement du fichier serait un indicateur très important qui nous permettrait de pouvoir apprécier la possibilité de pouvoir exécuter cette décision. Mais les autorités ont pris cette décision, elle vient de tomber je pense hier ou avant-hier, et qu'est-ce que cette décision est tombée? Je sais que je peux vous dire à ce stade que le CECOP n'a pas encore désactivé ces enseignants-là et qu'on est en attente parce que tout le personnel est descendu pour faire ce travail d'assainissement.
Merci. Et donc, on vous garde encore dans cette émission, Hilaire Ekourbeau, professeur Gary Sakata, député national élu de Bagata dans la province du Kwilu. Professeur, vous pensez que cette décision du secrétaire général à l'EPST va susciter des conséquences désastreuses sur le plan social en RDC?
Oui, je le pense effectivement, parce que vous imaginez combien d'enfants sont inscrits dans ces écoles et combien de parents, personnel, enseignants et consorts sont également affectés auprès de ces écoles. Donc moi je pense qu'il s'agira là d'une tentative de trouble à l'ordre public rural. parce que ces écoles sont souvent en milieu rural.
Il faudra bien assainir ce milieu, professeur. On a quand même beaucoup d'écoles fictives. Est-ce que cela doit continuer?
Oui, madame, mais moi j'ai comme l'impression qu'il y a là une véritable confusion qui est en train de se créer en ce qui, dans le chef aussi bien de l'IGF, du secrétaire général et du gouvernement. C'est qu'il faut, faire un distinguo entre la fictivité juridique et la fictivité au sens usuel du terme. C'est que ici, ce que l'IGF appelle école fictive, ce sont des écoles qui n'ont pas d'arrêté. Alors qu'il faudrait bien entendre par école fictive une école qui a une adresse mais qui n'existe pas à cette adresse. C'est ça le drame dans ce jeu de mots. Il ne faudrait pas que le Premier ministre Ilunga, en partant, nous laisse des cadavres parce qu'il est en train de partir, en excusant ici le ministre de l'enseignement supérieur, ministre de l'enseignement primaire ainsi que le secrétaire général. Ces écoles, moi je peux vous dire que d'expérience de terrain, ces écoles, la plupart existent, mais ils n'ont pas de bons arrêtés parce que uniquement les différents responsables qui avaient été désignés par l'État lui-même faisaient un tour dans une ville et revenaient avec de faux arrêtés, faisant croire à tout le monde que ces arrêtés existaient bel et bien. Les enfants étaient inscrits, le personnel était engagé et ils étaient également payés. Parce que ces écoles existent bel et bien, en tout cas un grand nombre.
Ces écoles existent mais n'ont pas d'arrêtés, de bons arrêtés. C'est quand même une situation anormale, professeur Gary Sakata.
Alors, quel serait alors, en tant que responsable d'État, premier ministre, ministre de l'enseignement primaire et secondaire, secrétaire général, quelle serait la bonne mesure lorsque vous estimez qu'une école n'existe pas de manière réelle, mais elle est fictive dans son existence juridique? La bonne manière, c'est quoi? C'est la régulariser, purement et simplement. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf sans une enquête préalable de terrain, parce qu'il me semble que le ministre de l'enseignement primaire a déjà envoyé des gens sur le terrain, et sans attendre les résultats de ces enquêtes, que l'on commence à désactiver les écoles. Il aurait été intéressant et plus sage que l'on attende pour vérifier est-ce que telle école citée existe à l'adresse indiquée ou pas. De la sorte, on ne peut pas favoriser ce qui n'existe pas parce que c'est l'argent qui va dans le vide, des personnes qui n'existent pas mais qui sont payées.
Mais on a déjà les conclusions. On a déjà les conclusions de l'enquête de l'IGF.
Mais l'IGF, madame, l'IGF fait son travail dans les bureaux climatisés de la ville de Kinshasa. Ils ne sont pas sur le terrain. Il faut attendre.
Qui vous dit qu'ils ne sont pas sur le terrain?
De la climatisation de la République de la Gombe, où à partir de la ville, on est en train de décider des choses. Nous voulons que les gens descendent sur le terrain pour vérifier la réalité des faits.
Qui vous dit qu'ils ne sont pas descendus sur le terrain, professeur Gary Sakata?
Mais ils sont allés dans la ville. Moi, j'ai dit qu'ils sont allés dans les chefs-lieux. Ils ne sont pas descendus là où sont ces dites écoles. Moi, je n'ai pas souvenir que dans ma circonscription de Bagata, où certaines écoles sont citées, on n'a pas dit, on n'a pas parlé de la présence des inspecteurs des finances là-bas. Ils sont allés dans les chefs-lieux de province, rencontrer les directeurs de ces corps, je ne sais pas qui, et ils ont donné leur rapport. Et ça, nous n'acceptons pas, madame.
Ils sont peut-être des antennes dans les chefs-lieux et dans les coins reculés du pays. Je ne le vois pas.
Madame, nous sommes les hommes.
Une institution sérieuse comme l'IGF.
Nous sommes sur terrain, nous avons tous les éléments possibles. Je vous dis que, en certains milieux, notamment ceux que je connais, les gens de l'IGF ne sont pas arrivés. Eux parlent de la fictivité, mais juridique. Là où je leur donne raison, c'est que certaines écoles ont une fictivité à caractère juridique, n'ont pas les documents requis.
Vous estimez donc, professeur, que cette décision ne doit pas être appliquée pour le moment?
Elle ne doit nullement être appliquée parce que, comme je l'ai dit au départ, ça sera un trouble à l'ordre public rural. Vous allez mettre... Bon, on parle du peuple d'abord, nous tous. Nous sommes proches de ces slogans. Mais tout ce personnel-là, ils vont aller où? Parce que ce sont des Congolais. Ils travaillent de manière effective. Ils ne savent même pas que leur institution fonctionne avec un arrêté correct ou non. On va le mettre où? Si cette institution existe effectivement, parce que la plupart existent effectivement.
Et il faudrait l'appliquer quand, selon vous?
Pour moi, il faudrait l'appliquer après qu'on ait envoyé ou après avoir attendu le rapport d'enquête. Je ne sais pas quelle est la structure qui est allée sur ce COP ou bien je ne sais pas quelle administration qui est descendue sur le terrain pour vérifier l'école désignée Songolo. Est-ce que à telle adresse, est-ce que ça existe ou non? Ça également, c'est un problème effectivement. Il y a des écoles qui sont effectivement fictives du point de vue matériel et juridique et pour lesquelles on paye cet argent, va où? C'est dans les chefs de responsables, certainement de l'administration. Ce sont ces écoles-là qui doivent être visées, pas le tout en bloc, uniquement parce qu'on manque, on a un arrêté fictif, un arrêté non valable qu'on va mettre en difficulté tout un peuple ou toutes les populations.
Et si après enquête du CECOP et des syndicalistes, on arrivait au même résultat, qu'est-ce qu'on ferait?
Je doute fort bien. Je doute fort bien qu'on arrive au même résultat. Parce que moi, j'ai vu des écoles que je connais depuis plus de 10 ans qui sont citées comme étant fictives. Mais j'ai bien compris que c'est de la fictivité juridique, donc d'absence d'arrêté et non pas d'absence d'école de manière effective. C'est ça qu'il faut, c'est ça les distinguos qu'il faut faire entre les deux éléments, entre ces faits.
Jean-Marie Tantoumet, expert en matière d'éducation, vous êtes promoteur du Bureau d'action et d'éveil culturel, une asbel d'éducation civique et culturelle. Vous êtes également ministre et député honoraire. Jean-Marie Tantoumet, quelle lecture vous faites de cette décision de radier du fichier des paies des enseignants 1179 écoles?
Merci madame. De prime abord, le BAC est surpris de constater que le secrétaire général de l'EPST s'empresse à instruire les sécopés de désaffecter ces écoles. Je me demande, est-ce qu'il fallait-il attendre le contrôle de l'IGF qui est essentiellement une institution d'ordre financier et non pas pédagogique pour dire que ces écoles sont fictives et encore que je voudrais que nous nous entendions bien. Je peux parler des écoles qui ne sont pas conformes aux normes de création. Je peux parler des écoles dont la qualité de l'éducation ne répond pas au préalable. Je peux parler des écoles qui n'existent pas. Quelque chose qui est fictif, c'est une chose qui est dans l'imaginaire. Physiquement, elle n'existe pas. Quand physiquement, quelqu'un existe, il n'est pas fictif. Il existe. Il est important que nous nous entendions sur les termes à employer. De deux, un tel nombre, est-ce que le secrétaire général confirme-t-il que effectivement, ces écoles sont des écoles qui ne sont pas conformes, qui sont fictives, ces services confirment ce travail fait par l'IGF, et encore que l'IGF, je ne sais pas, avec quel personnel a-t-il fait le contrôle pour arriver à constater tout cela. Nous avons été parmi ceux qui ont contrôlé il y a quelques mois les écoles sur le terrain. Je pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Il ne faut pas que d'abord le secrétaire général, excusez-moi, je suis surpris que le secrétaire général et le ministre ne soient pas encore entendus comme il faut sur tous ces désordres. On a sacrifié le directeur du CECOP, l'inspecteur général, qui ne sont pas les premiers responsables pour décider de l'existence d'une école. Le secrétaire général et le ministre, c'est la couleur douce, continuent à c'est la couleur douce et à s'empresser à sacrifier, à trouver des boucs émissaires. Non. Je pense qu'il faut aller lentement. Nous devons nous asseoir pour examiner ce rapport de l'IGF. Nous devons le confirmer en allant sur le terrain, non pas dans les bureaux. Si les écoles existent,
pourquoi vous pensez?
Sont pas en ordre, il y a une autre chose à faire. Soit on contrôle, on leur demande de se conformer, ou on décide. Mais on ne peut pas à partir du seul contrôle de l'inspection générale des finances, décider que telle école est conforme ou pas. Je voudrais, il y a beaucoup de services qui existent. Je dis, on est allé vite en besogne jusqu'à décider cela. On veut simplement sacrifier les plus faibles. C'est comme les animaux malades de la peste. On sacrifie les plus faibles. Ceux qui mangeaient l'animal et le berger, on le laisse. L'arbre qui avait mangé l'herbe, on l'a sacrifié. Non. Le BAC ne voudrait pas qu'on sacrifie les plus faibles, les innocents, parce que ceux qui sont coupables veulent bien se sauver.
Pourquoi vous pensez, Jean-Marie Tantoumet, que l'IGF n'est pas descendu sur terrain? Je vois très mal
je
quand même cette
que,
institution
produire
un rapport.
Elle n'est pas seule compétente à décider que le constat de l'IGF nous soit remis, nous, partenaires du ministère, syndicats, association des parents, le BAC et autres, et le service technique, nous examinons ce rapport de l'IGF. Nous devons faire la contre-expertise. L'IGF ne peut pas à elle tout se décider comme ça. Non. Même si elle est descendue, je dis, il vaut mieux que ce rapport nous soit remis. Qu'on fasse un travail calmement pendant quelques temps, on finira par confirmer ou infirmer. Surtout qu'on puisse déterminer les termes. Est-ce des écoles fictives, des écoles non conformes, des écoles irrégulières ou quoi? On ne doit pas dire des écoles fictives. Et puis, sans école fictive, non. J'aimerais que d'abord qu'on s'entende sur le terme. Ce qui est fictif, c'est ce qui est dans l'imaginaire. Il n'est pas physiquement existant. Est-ce que ces écoles sont réellement dans l'imaginaire? Elles n'existent pas. Il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas d'enseignants. C'est très important.
Merci Jean-Marie Tantoumé. On va prendre ces auditeurs qui n'arrêtent pas d'appeler sur notre standard. On va commencer par cet auditeur qui nous appelle depuis Bukavu. Pour vous, Hilaire et Kobo.
Je réponds par le nom de Magene Gakumbu Jules à Bukavu dans le Sud Kivu. Je pense que le gouvernement actuel est incapable de payer certains de ses fonctionnaires. C'est pourquoi il commence à agencer des motifs qui sont insignifiant. Donc, on ignore que dès le début du dit enseignement de base gratuit, les autorités qui l'ont instauré n'ont toujours pas les moyens suffisants pour appliquer cette initiative de bonne foi. La question, où était le ministère de nous donner cette version? Il se trouve aujourd'hui incapable de satisfaire ou d'honorer les écoles où, à leur droit, ils prennent les mesures qui vont enfoncer le pays dans les taux de chômage. Si nous comptabilisons le nombre de toutes ces écoles qui seraient exclues de la liste des EPST, où vont trouver les emplois tous ces Congolais qui s'acoquinaient déjà là? Le ministère doit revoir sa décision pour ne pas plonger le pays dans le vide du manque d'emplois. Merci beaucoup.
Cet auditeur aborde un peu dans le même sens que vous. Hein. Il estime que cette décision risque de plonger le pays dans le vide. Il y aurait beaucoup de gens qui vont se retrouver sans emploi. Hilaire Kobo, est-ce que vous êtes en ligne? Je crois que nous avons perdu Hilaire Kobo. La réalisation va essayer de le retrouver. En l'entendant, professeur Gary Sakata, il y a Célestin Sota, cet auditeur, qui nous écrit. Il pense que c'est une décision à saluer. Il encourage en même temps, non seulement se charger de l'exécution de cette décision, de le faire rapidement, mais aussi poursuivre l'origine de ces faux arrêtés, identifier les auteurs de ces désordres, les mettre à la disposition de la justice.
Oui, mais comme je l'ai dit, madame, qu'est-ce qu'il y a à saluer? Une décision qui est plus ou moins imprécise parce que l'on ne sait pas bien distinguer ce que l'on doit comprendre par école fictive de manière matérielle et physique et école fictive de manière juridique parce que, pour l'auditeur, les écoles qui n'ont pas eu d'arrêté et dont il y avait le personnel et les enfants, les élèves qui ne savaient même pas que ces écoles manquaient d'arrêté et qui ont été payés durant tout le temps, on doit les renvoyer à la maison, c'est ce que j'ai compris. Ah non. Non, nous disons qu'il faut faire une bonne différence entre les écoles matériellement et physiquement existantes, ayant un personnel et des élèves, mais qui n'ont pas un arrêté. Celles-là doivent continuer normalement à exister parce qu'il y a un personnel qui travaille et des élèves qui sont. Les écoles à Elagel sont des écoles qui sont fictives de manière complète, dans la mesure où l'école n'existe pas, il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas non plus d'élèves, il n'y a que le nom d'école. Et on paye de personnes qui n'existent pas. C'est à l'égard de celles-là. Mais à l'égard d'autres, là, ça fait des ordres, non? Des ordres sociaux.
Merci, professeur. La réalisation me signale que Hilaire Kobo est en ligne. Hilaire Kobo, vous êtes là?
Oui, je suis là, merci.
Alors, il y a un auditeur qui a une question ou quelques questions pour vous. On va reprendre cet auditeur qui nous appelle depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu.
Je réponds par le nom de Magene Gakumbu Jules à Bukavu dans le site Kivu. Je pense que le gouvernement actuel est incapable de payer certains de ses fonctionnaires. C'est pourquoi il commence à agencer des motifs qui sont insignifiants. Donc, on ignore que dès le début du dit enseignement de base gratuit, les autorités qui l'ont instauré n'ont toujours pas les moyens suffisants pour appliquer cette initiative de bonne foi. La question, où était le ministère de nous donner cette version? Il se trouve aujourd'hui incapable de satisfaire ou d'honorer les écoles où, à leur droit, ils prennent les mesures qui vont enfoncer le pays dans les taux de chômage. Si nous comptabilisons le nombre de toutes ces écoles qui seraient exclues de la liste des EPST, où vont trouver les emplois tous ces Congolais qui s'acoquinaient déjà là? Le ministère doit revoir sa décision pour ne pas plonger le pays dans le vide du manque d'emploi. Merci beaucoup.
Hilaire Ekobo, que pensez-vous de cette réaction de Jules qui nous a appelé depuis Bukavu?
Et merci beaucoup. Je pense que M. Jules doit savoir que ce n'est pas le ministère qui a décidé que cette situation soit ainsi. Je pense qu'il a été clairement dit que le ministre de l'EPST a reçu une lettre, une correspondance venant de son Excellence Monsieur le Premier ministre, lui donnant instruction de pouvoir demander au CECOP de pouvoir désactiver cette catégorie d'école. Au fait, c'est une décision qui est venue au plus haut sommet du gouvernement de la République, donc ce n'est pas une décision du ministère de l'EPST. Au fait, nous tous, nous partageons le même sentiment, parce que nous savons que cette décision est une décision qui va produire des effets sur le terrain, naturellement, parce qu'il y a beaucoup de ces élèves qui seront sans école, il y aura beaucoup de ces enseignants qui resteront sans salaire, ils seront jetés dans le chômage, ce qui du reste n'est pas une bonne chose, mais quelque part, nous disons que ça risque d'impacter négativement la gratuité de l'enseignement qui a été prônée par son Excellence Monsieur le chef de l'État. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse chercher une solution intermédiaire par rapport à ça.
Okay,
on regarde la situation en face et qu'on cherche une solution intermédiaire par rapport à cette question.
Ça sera la deuxième partie de notre émission, professeur. Gary Sakata annonce une réaction pour vous qui nous vient de Lubumbashi, de la province du Haut-Katanga.
Je m'appelle Dieudonné Bangifis depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Eu égard à cette situation, nous remettons en cause la justice congolaise qui a opté pour la politique de deux poids, deux mesures. Dans la mesure où nous avons fini par comprendre que le procès est pesté et sécopé, le mal était profond et la justice avait intérêt d'élargir son champ d'arrestation pour établir les auteurs et co-auteurs de cette gabegie financière. Mais hélas, que cette dernière se soit limitée seulement à la condamnation de deux personnes. Il est inadmissible que ces deux personnalités puissent payer les pots cassés au moment où les ministres qui ont dirigé ces ministères se baladent paisiblement sur les rues de Kinshasa. En ma qualité d'analyste libre d'opinion, je veux, à mon humble avis, voir non seulement ces ministres qui étaient en exercice depuis la création de ces écoles fictives être interpellés, mais aussi et surtout les inspecteurs provinciaux de l'EPST qui ont couvert cette mafia depuis des années.
Professeur Gary Sakata.
Bon, mais ça c'est un point de vue qui lui est personnel. Pour donner un point de vue conséquent sur cette thématique, il faut voir les dossiers. Moi, je n'ai pas le dossier par rapport à ces différents éléments. Je ne sais pas si le parquet ou le tribunal ou la cour a fait imparfaitement son travail ou quoi. Ben, ayons confiance en notre justice et espérons que ce qui a été fait est bon. Ben, je n'ai pas d'éléments supplémentaires pour donner un avis plus approfondi que ça.
Il estime que les ministres qui étaient en exercice depuis la création de ces écoles fictives, ainsi que les inspecteurs provinciaux de l'EPST qui ont couvert cette mafia, puissent être interpellés.
On peut le dire ainsi, mais vous savez, de l'expérience que j'ai de terrain, il y a des petits sous-groupes qui promettent à certains villages, je vais vous amener un arrêté demain. Et après deux jours, enfin je m'en suis rendu compte, vous avez un arrêté. Bon, certainement les ministres, en réalité les ministres ne le savent pas parce que l'arrêté qui est amené est en réalité un arrêté qui concerne une école existante. Donc, ils font la photocopie sur, sur informatique, ils prennent les mêmes numéros, mais ils changent de nom d'école. Manifestement, à mon avis, à ce stade, les ministres peuvent ne pas le savoir. Hein. À sa décharge, bien entendu. Bon, mais les services qui sont chargés de la paie, je ne suis pas sûr que les ministres soient chargés de la paie. Hein. Les services qui sont chargés de la paie peuvent éventuellement le savoir, mais je doute fort bien que les ministres de l'enseignement primaire et secondaire, tous ceux qui ont existé jusque-là, puissent le savoir.
Jean-Marie Tantoumé, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi, dans la province du Lualaba.
Chouk Mouidiro à partir de Kolwezi. Lorsque le premier ministre instruit les secours de la guerre plus de 1000 écoles, est-ce qu'il a au moins mesuré les conséquences de sa décision sur les élèves qui fréquentent ces écoles, malgré les irrégularités dont elles font objet? Je pense qu'on ne peut pas prendre une décision juste par le plaisir de le faire, parce que non seulement on veut supprimer les emplois que ces écoles ont créés, bien que dans l'irrégularité, par le fait que le gouvernement n'est pas à mesure de donner, de créer des emplois pour des jeunes diplômés, mais on touche sur l'éducation des enfants qui fréquentent et qui bénéficient quelque chose de ces écoles. Le vent étant tiré, au lieu de les radier, le gouvernement devrait au contraire supprimer les doublons, régulariser des écoles qui fonctionnent avec des fonds documents pour ne pas pénaliser les enfants, mais aussi sauver ces emplois parce que ces enseignants sont des responsables des familles et n'ont aucune autre activité professionnelle pouvant leur permettre de subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille. Sans donc encourager les mal, la décision du Premier ministre n'a pas vraiment de raison valable, surtout que ça va empirer le social des dépendants de cette école.
Jean-Marie Tantoumé, brève réaction.
Merci beaucoup. Je souscris au point de vue de ce dernier qui vient de parler et de celui qui a dit qu'on doit écouter nécessairement les ministres de l'EPST pour que chacun donne son point de vue, chacun puisse s'éclairer. Le directeur du SECOCE et l'inspecteur général n'ont pas le pouvoir de décision. Ils ont le pouvoir d'exécution. On ne peut pas condamner l'inspecteur général, le directeur du SECOPE, et sans entendre le secrétaire général et le ministre, ça, c'est quand même, ce n'est pas correct. Et nous disons, le premier ministre, il instruit, sur quelle base est-ce que ces services ont été sur le terrain pour confirmer la vie de l'IGF? Non. Et puis, quand on assure les affaires courantes en ce moment, vraiment de pas prendre des décisions si graves alors qu'on assure les affaires courantes? Non. Nous souhaiterions qu'on puisse, un, écouter d'abord le ministre sur toutes ces questions et ensuite qu'on prenne les pour contre-vérifier le travail fait par l'IGF. Ce serait de bon aloi. Il ne faut pas sacrifier, trouver de bouc émissaire dans les pauvres enseignants, les pauvres élèves qui n'ont que faire, rien ne peut se faire à l'insu du ministre. Et si le directeur du SECOPE et le secrétaire général avaient agi de leur propre gré, pourquoi tous ces pays n'ont jamais été sanctionnés par les ministres? Non, le ministre est coupable, soit pour ne pas sanctionner le directeur du SECOPE, le secrétaire général, soit pour avoir été exactement les vrais auteurs.
Merci.
Qu'est-ce qui peut se faire dans un ministère sans l'avis du ministre? Surtout maintenant où l'administration est sacrifiée, tout est politique. Les ministres se sont accaparés de tous les pouvoirs dans leur ministère.
Mais
non.
Merci.
Nous disons, en tant qu'acteurs de la société civile, des Français, des faibles et des causes justes, nous disons non, ce serait injuste de sacrifier le directeur national du SECOPE,
vous l'avez déjà dit, Jean-Marie.
Les autres, c'est la couleur douce.
Merci
non.
Beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Marie.
Qu'il y ait un contre-contrôle.
Vous l'avez déjà dit, Jean-Marie Tantoumé, passion bien mon goût depuis Kinshasa, dit ceci avec cette révélation de l'IGF assortie d'une enquête au niveau du ministère, c'est-à-dire à Kinshasa, sans descendre sur terrain en province. Je crains que cette opération puisse être conflictuelle en emportant les vraies écoles parmi celles fictives et vice-versa. La vraie solution, il faut un contrôle physique général sur toute l'étendue du pays, à l'issue duquel on aura un fichier réel, tout en plus punissant de manière exemplaire les auteurs de cette mafia. Hilaire Ekobo, nous sommes à la fin de notre émission. Que faire pour prévenir ce genre de situation?
Pardon, madame, je ne vous ai pas bien suivi. Il y a eu un problème de réseau.
Oui, je disais, nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire pour prévenir ce genre de situation?
Ok, merci beaucoup. Merci pour la question. Je pense qu'aujourd'hui, le CECOP est en train de faire un travail conjoint avec les syndicalistes de l'EPP. Et c'est un travail de contrôle de viabilité de tous les établissements scolaires au niveau de la RDC. Et donc, nous sommes en train de défendre, voir toutes ces écoles physiquement, constater leur viabilité physiquement, constater la population scolaire qui se trouve au niveau de ces écoles, constater si réellement ces écoles détiennent des vrais arrêtés, des arrêtés authentiques. Et un rapport sera dressé à la fin de cette mission et on les donnera à qui de droit. Et donc, je pense qu'il serait de bon aloi que nous attendions un peu l'issue de cette mission conjointe entre les CECOP et les syndicalistes de l'EPST qui sont en train de faire un contrôle de viabilité sur toutes ces écoles à travers la République. Et à l'issue de ce travail-là, naturellement, on saura si réellement il y a des écoles fictives qui méritent d'être élaguées. Et les écoles qui auront, par exemple, des infrastructures scolaires bien bâties, avec une population scolaire également, mais qui n'ont pas d'arrêté, je pense que la moindre de choses serait de régulariser. Ça voudrait dire que l'autorité compétente prenne des arrêtés portant régularisation de tous ces cas-là.
Merci. Et c'est la justice, voilà. Merci, Hilaire Ekobo, professeur Gary Sakata. À l'avenir, comment prévenir ce genre de situations? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de situations?
Oui, à l'avenir, il faut effectivement d'abord que l'autorité publique établie soit diligente à signer, si possible, les arrêtés qui concernent les écoles dans les milieux où c'est vraiment nécessaire. Parce que en milieu rural, lorsqu'on envoie des dossiers aussi bien au chef-lieu de la province que dans la ville de Kinshasa, vous pouvez attendre 2 ans. C'est pour ça qu'il s'est créé ces réseaux mafieux consistant à délivrer de faux arrêtés entre guillemets pourvu que les écoles fonctionnent. Mais je voudrais quand même revenir sur ce que le précédent intervenant a dit. Je partage son point de vue. Il faudrait qu'on fasse la distinction entre les écoles fictives, matérielles et physiques, donc qui n'existent carrément pas avec les écoles fictives, mais qui existent, mais qui n'ont pas d'arrêté. Celles-là doivent forcément être régularisées et c'est très urgent même.
Merci, professeur Gary Sakata. Jean-Marie Tansoumey, votre conclusion.
Ma conclusion est qu'on cesse de politiser l'administration, on respecte le pouvoir de l'inspection générale, de l'administration, du secrétariat général. Que le ministre cesse de donner des arrêtés aux députés qui prennent des arrêtés pour des écoles qui n'existent pas, uniquement ils les ont pour de la popularité, pour des causes électorales.
Jean-Marie Tantoumey, merci beaucoup. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la préparation de ce magazine, Guy Maté, Donna Madimba, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à William Lungamba qui était à la mise en onde. Présentation et coordination à Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.